Du coup, on va réenchaîner avec Anitra Nouri, qui est du coup maintenant docteur. Donc, félicitations.
Merci.
Et toujours pas rien.
Alors, maintenant, je suis à Parsons Paris, pardon, je suis désolée, mais à Parisien. Non, okay. Mais à Parisien, pardon, vas-y.
Et qui a travaillé aussi au Design Art Media Lab de la Sorbonne. Elle a travaillé notamment, enfin, sa recherche porte sur l'appropriation des réseaux sociaux comme médium artistique, explorant comment les artistes, notamment les artistes femmes, détournent les affordances des plateformes pour créer des entités critiques et réflexives. Donc depuis 5 ans, elle enseigne la philosophie de l'art à Paris 1. C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Et débutera l'enseignement de l'histoire des médias à Parsons Paris. Elle a publié dans des revues académiques internationales comme La Science du Design, Plastique, Design in Translation et Sens Public. Et elle a notamment contribué à des catalogues d'expositions pour les institutions telles que Carl Costial à Londres,
ouais,
et Hocke à Linz et Perrotin, à la galerie Perrotin à Paris. C'est bon ?
C'est bon. Allez. Merci beaucoup. Oui, ok. Bon, merci beaucoup Cyril et merci de m'avoir invité ici aussi. Je suis très très contente de participer à cette journée d'études. Effectivement, je viens pas vraiment du monde des arts du cirque, mais je suis ravie de faire partie aujourd'hui. Et je vais vous parler du coup de ma recherche, des détournements des outils numériques dans la performance du soi. Donc, dans la performance sur les réseaux sociaux spécifiquement. Et on va voir si on trouve d'autres liens que je n'ai pas prévus, mais j'espère. Alors, ce travail a débuté dans les années 2010. Donc, je suis américaine, je vivais à l'époque à New York et avec l'essor, l'explosion des réseaux sociaux, j'ai commencé moi-même à m'afficher sur les plateformes, mais aussi remarquer que certaines femmes autour de moi utilisaient ces plateformes des façons originales, inédites et créatives. Et je voulais comprendre un peu, moi je voyais ces pratiques en tant qu'art, mais j'étais souvent confrontée par une approche ou une logique qui ramenait souvent à la narcissisme en fait, ou qui était assez réductrice. Et donc, je voulais comprendre et essayer de voir comment je pouvais étudier ces pratiques en tant qu'art, en tant qu'objet d'art et les plateformes même en tant que médium. Donc, cette appropriation de ces plateformes. Et donc, j'ai demandé si ces plateformes sociales, malgré leur logique marchande et leurs contraintes techniques, devenaient entre les mains de certaines des vrais terrains d'expérimentation de l'auto-représentation. Et on ne va pas peut-être parler aujourd'hui de toutes les façons, toute cette logique marchand qui existe et aujourd'hui encore, donc ça fait 10 ans que j'étudie ces plateformes et aujourd'hui c'est clairement des champs touchés par un gros écosystème économique. Mais on va laisser ça de côté pour le moment, même si c'est évidemment très présent. Donc, je regarde des œuvres sur les réseaux sociaux. Ça peut être des selfies, des filtres de réalité augmentée, des performances en temps réel sur les webcams, donc en diffusion en temps réel. Ça peut être des créations avec l'intelligence artificielle. Ou des photos et des vidéos. Il faut dire que la plupart de ces artistes font des performances aussi dans les lieux physiques, enfin dans les galeries ou parfois dans les théâtres aussi. Mais pour ma recherche et de ce que je vais vous parler aujourd'hui, je me concentre sur leurs pratiques en ligne, vraiment sur les plateformes. Et donc, ça, c'est les 10 artistes que j'ai étudiés. Je ne vais pas pouvoir parler de tous les 10 aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, là, vous avez les noms, vous pouvez aller chercher un peu plus après. Alors, j'ai décidé d'utiliser les artistes ou d'étudier les artistes qui utilisent les plateformes non seulement comme vitrine donc qui est quand même une façon très intéressante d'utiliser les réseaux sociaux, donc pas seulement pour diffuser leurs œuvres, mais vraiment comme médium à part. Donc ça veut dire qu'elles interviennent avec les formats, enfin elles exploitent les formats, leurs codes, les logiques techniques pour en faire de la création. Donc c'est tous les aspects, ce n'est pas seulement les aspects visuels, donc c'est pas seulement les images, mais c'est aussi les légendes. Pardon, je vais passer. C'est les légendes, c'est les commentaires, c'est les réactions, c'est aussi le format. Donc par exemple sur Instagram, c'est un format en gris qui est un défilage, enfin un défilement chronologique qui remonte dans le temps, qui permet de voir plusieurs images à la fois. Parfois, il y a des gens qui même créent des images qui traversent plusieurs publications. Ou parfois, c'est des individuels. Mais donc, tu prends en compte tout cette format, toute l'interface, tous les affordances, donc les capacités de ces plateformes en tant que possibilités techniques, mais aussi en tant que dans leur code social, dans les normes sociales. Donc, comment on utilise les réseaux sociaux et comment ça influence les œuvres. Donc pour aujourd'hui, j'ai essayé de définir quelques aspects de la performance sur les réseaux et entre des volets, un peu des volets, des thématiques. Donc je commence avec le filtre, la fenêtre, le scroll ou le défilement et puis le corps en soi, le corps manipulé. Donc si on commence avec le filtre, cet aspect se concerne principalement avec le visage. Donc ces filtres qui sont des filtres créés soit avec des applications de retouche photo comme Facetune ou des applications dont les logiciels comme Lens Studio ou AR, Spark AR qui ont été mis à disposition pour la public en 2017 et jusqu'en 2019, peut-être certaines ont utilisé, en fait, on avait l'opportunité, tous les utilisateurs pouvaient créer leur propre filtre et les publier sur certaines plateformes comme Instagram ou Snapchat. Donc, ça veut dire que n'importe qui pouvait utiliser ces filtres. Sinon, l'application Facetune, ce qu'on voit dans cette image, je vais vous en parler dans un moment, ça c'est quelque chose qu'on peut télécharger et, pour éditer une image avant de le publier. Et donc, je vais vous parler de quelques artistes qui manipulent un peu ces possibilités. Donc, il y a l'artiste Cindy Sherman dans cette image qui en 2016, donc qui est une artiste américaine qui pratique principalement la photo et qui était connue notamment dans les années 60 et 70 d'avoir fait une série qui s'appelle Untitled Film Stills, c'est ce que vous voyez à gauche, votre gauche, où elle a recréé des mises en scène qui ressemblaient à des scènes de film. Ou après, elle a fait beaucoup de portraits où elle se met elle-même en scène, mais avec les interventions de beaucoup de maquillage, des prosthetics, des perruques pour se transformer en personnages différents. Donc en 2016, elle a créé un compte Instagram qui était rendu public où elle s'est affichée avec des nombreuses selfies où elle avait utilisé cette application Facetune pour se transformer. Donc, ce n'est plus avec le maquillage et les prothèses et les perruques, mais c'est une autre façon de se masquer. Donc, les filtres de réalité augmentée et ces applications ajoutent une couche sur le pot. Donc, soit en 3D en temps réel, donc je vais vous parler après, enfin, je vous montrerai. Mais dans ce cas, c'est comme un maquillage, par exemple, mais ça peut aussi déformer le visage. Donc, elle utilisait cette application Facetune, pas pour sa, on va dire, la manière courante d'utiliser, qui était plus pour l'optimisation esthétique, donc pour effacer les rides, pour comme un maquillage un peu, ou pour ajuster, élargir les yeux ou masquer certaines choses. Elle l'a utilisé à l'extrême pour gonfler, mais trop gonfler ses lèvres, colorer sa peau et vraiment créer des portraits ludiques et parfois grotesques. Donc elle a détourné cet outil de son usage initial. Et je voulais aussi, ça me rappelle quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Nicolas, qui n'est plus là, mais qui disait que pour lui, le cirque et le jonglage, c'était d'utiliser le corps d'une manière qu'on n'est pas censé l'utiliser. Et ça crée cet aspect d'absurde. Ben, ces artistes aussi, elles approprient des outils et elles les utilisent d'une manière qu'on n'est pas censé les utiliser. En tout cas, ils n'ont pas été conçus avec cette intention. Donc elle en tout cas, Sherman, elle en étire une sensation d'absurde aussi en sortant ces outils de leur pratique courante. Donc, d'autres artistes qui ont utilisé, exploré avec des filtres de réalité augmentée. Donc, comme je vous ai dit, c'est ajouter une couche 3D, des formes 3D animées sur le visage qui ajustent en temps réel aux mouvements variés. Donc, un exemple, c'est l'artiste Johanna Jaskowska qui a créé un filtre qui s'appelle Narcisse. Donc, aussi faisant un peu rappel à cette logique de narcissisme qu'on retrouve souvent, mais qui ajoute une couche métallique sur la peau qui fait que quand on se prend en photo, on voit plein de le reflet de nous-mêmes fragmenté dans nos propres visages. Donc ça crée un effet un peu fractal, un visage fragmenté, surréaliste et peut-être étrange. Donc à nouveau, elle résiste à cette et pour créer un visage qui est étrange. Et non seulement est-ce que le crée, elle le met sur elle-même, mais elle le rend disponible aux autres, donc n'importe qui peut le porter. Donc ça crée un effet, un vrai représentation dialectique, dans le sens où non seulement est-ce que moi, en tant qu'artiste, je me présente avec ce visage qui fait le reflet de moi-même en fractal, mais vous aussi, vous pouvez le porter et participer dans cette expérience. Donc, c'est une partie importante de ces œuvres, c'est qu'elles sont interactives. Il faut noter juste que ce filtre en question, malheureusement, n'existe plus en ligne, puisque depuis ce janvier 2025, cette capacité de publier librement des filtres sur Instagram et Snapchat a été effacée. Et aujourd'hui, c'est Meta, c'est des entreprises qui ont contrôle total sur les filtres qui sont mis à disposition. Donc, c'est aussi dommage. Et j'aurais dû dire dès le début qu'il y a beaucoup de ces pratiques qui ont malheureusement disparu. Le compte Instagram de Cindy Sherman n'existe plus, donc si vous le cherchez, il est nulle part. J'ai une archive, petite archive, il y a quelques autres archives, des photos, mais sinon, pour le moment, en tout cas, ça a disparu. Et donc, c'est aussi un aspect assez important, et c'est des œuvres éphémères, parce qu'à tout moment, l'artiste peut décider de l'effacer, ou les politiques des plateformes peuvent changer, et donc retirer les capacités. Ensuite, la fenêtre. Donc, comme je vous ai dit, je prends en compte pas seulement l'image, mais aussi tout l'interface. Donc l'image propre, mais les commentaires, l'agencement des commentaires, où est-ce qu'on voit les réactions. Donc tout ça fait partie de la scène, en fait, de la scène de la performance. Donc là, vous avez une performance de l'artiste suédoise Arvida Bistrom qui s'appelle Tying Cherry Stems, 8 heures, de 21. Alors, c'était diffusé sur Instagram Live. Elle n'a rien annoncé avant de le faire. Et c'est une performance qui a duré 8 heures, où elle était assise avec cette énorme pile, enfin, montagne, de cerises, et elle a fait des nœuds avec sa langue, des queues de cerises, de chacun, sans rien dire. Donc elle est assise en train de le faire pendant 8 heures. Et ce que vous voyez dans le... dans l'image, c'est des petits cœurs flottants, donc ça c'est des réactions. Mais vous voyez aussi qu'il y a des commentaires qui s'affichent. Il y a quelqu'un qui dit « Are those real ?» Quelqu'un qui dit « God, you're beautiful ?» Quelqu'un qui dit « Where did you get so many cherries ?» Bon, etc. Donc, il y a des gens clairement qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui apprécient, des gens qui s'en foutent totalement parce qu'ils la trouvent belle et ça suffit. Mais tout ça se passe, c'est intégré, c'est même gravé à l'intérieur de l'image. Donc ça fait partie de la performance en fait, c'est intégré dans la scène. Donc elle a fait la performance en fait en 2017, mais elle a publié sur les réseaux en 2021 avec une image overlay, incrustation, avec une scène, c'est peut-être un peu dur de voir, mais c'est une scène du film de série Twin Peaks, où l'une des actrices principales fait ce nœud avec le queue de cerise et le pose, et c'est un geste hyper sexualisé, en fait. Et donc, Bistrom la met dans son image. Donc là aussi, elle a ajouté encore une capacité technique, elle a intégré encore une couche où elle a plusieurs couches de médias. Et on voit ici des commentaires à droite, des commentaires dans l'image et les gens parfois qui se répondent uns aux autres. Donc on peut voir les commentaires de soutien, de confusion, d'inquiétude et aussi parfois les gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe, et une autre qui en temps réel répond bah en fait elle est en train de faire des nœuds avec des queues de cerise, et un autre qui dit mais pourquoi elle fait ça, et voilà. Donc c'est des réelles conversations qui se passent aussi. Donc l'intégration visuelle des commentaires dans l'œuvre crée une forme de matérialité participative et révèle une tension fondamentale entre lisibilité sociale et ambivalence esthétique. Donc en fait elle n'explique rien pendant tout ça, et en tant qu'artiste, et elle a un profil public où elle fait plein d'autres choses, il y a des gens, des abonnés qui la suivent, pas pour son art, en fait, parce qu'ils la trouvent belle ou parce qu'ils la trouvent intéressante. Et elle utilise quand même les tendances des réseaux sociaux, donc d'être sur un plan neutre, avec une lumière douce, avec un plan fixe sur le visage, sur le geste, habillé d'une manière qui est attirante peut-être, pour quand même s'aligner avec les codes des plateformes. Et finalement, elle les détourne puisqu'elle fait une action complètement absurde pendant donc 8 heures, qui fait aussi référence au temps, une journée de travail. Donc en fait, elle fait un travail absurde pendant toute une journée. Il y a beaucoup plus de dire sur cette œuvre, mais je passe. Ces œuvres s'inscrivent aussi dans une continuité de figure majeure de la performance féministe. Elle a fait une œuvre en 2018 qui s'appelle Interior Scroll, où elle a rejoué le geste iconique de l'artiste américaine Carolee Schneeman, qui avait une œuvre qui s'appelait Interior Scroll de 1975. Et où Bistrom attire un rouleau de papier avec des imprimants de Pinterest, la plateforme d'images, où elle avait cherché le mot féministe, et elle a imprimé tous les résultats, et elle tire le rouleau de sa culotte en lisant les résultats. Et c'est à nouveau une espèce de... C'est ludique, mais c'est aussi une réponse à la commodification de la féminisme. Donc beaucoup de ce qu'elle lit, c'est des produits, en fait, les meilleurs bassinets, les meilleurs mobiles pour avoir un enfant féministe, les 10 meilleurs soutiens-gorge féministes, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est complètement absurde. Et elle le fait pendant qu'elle rejoue une performance connue féministe. Mais plus qu'un simple hommage, cette relecture introduit une friction entre les affordances, donc les capacités des plateformes, mais aussi leurs limites. Donc le direct côtoie la mise en archive, le corps intime rencontre le regard anonyme du feed, donc du fil d'actualité, et le scroll remplace la scène. Donc en fait, il y a, c'est pas seulement, ce n'est pas la même chose, enfin, d'être nu en ligne, être nu dans la scène avec les gens, évidemment. Mais elle ouvre d'autres capacités, d'autres potentialités. Donc Bistrom ne fait pas que occuper l'espace du réseau, elle transforme l'interface elle-même en dispositif. Je continue. Donc le troisième volet, c'est le scroll. Donc ça met en lumière comment certains artistes jouent avec les logiques narratives des plateformes. Donc je vous ai parlé de cette verticalité d'Instagram. On a aussi le timeline de Facebook qui a ouvert cette idée de se mettre en scène, mais de montrer sa vie, se défiler pour d'autres gens. Et il y a certains artistes qui ont joué avec cette linéarité. Donc il y a un artiste espagnol-argentine qui s'appelle Amalie Ullman, qui mobilise les structures narratives d'Instagram, donc un format épisodique, un langage codé, des visuels filtrés, pour performer un personnage fictif. Pendant 6 mois, elle crée un récit cadré selon les conventions visuelles d'Instagram. Donc elle se représente comme une jeune femme qui arrive dans une grande ville naïve et qui se fait corrompu par la vie hypersexualisée et capitaliste de la grande ville. Elle a une espèce de breakdown public et après elle devient a life goddess, donc je sais pas, révélée, où elle comprend qu'il faut faire du yoga et manger du avocado toast, voilà. Et après 6 mois, elle annonce à tout le monde que c'était une performance et que ce n'était pas sa vraie vie. Donc, elle met en jeu cette idée que les réseaux sociaux, c'était un endroit de l'authenticité. Et en fait, elle expose, elle révèle cet aspect de que tout est en fait curaté et que c'est une mise en scène. Voilà. D'autres artistes ont joué avec cette linéarité en cassant les temporalités pour créer des œuvres non linéaires. Je voulais vous montrer les deux œuvres, mais on n'a pas le temps, mais vous pouvez aller les voir un peu. Mais Steadier Footing, c'est une œuvre que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est il y a plein de fenêtres, l'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Pendant 11 ans, elle s'est refilmée. Donc elle ouvre une vidéo d'elle-même, puis elle rechante la même chanson en se filmant. C'est dur à expliquer, mais en gros, elle embrique des performances un dans l'autre à travers une décennie. Et puis chaque année, elle le rejoue. Okay? Et l'autre œuvre, Inbox Full, est une œuvre qui a duré 11 heures, qui est actuellement sur YouTube, où elle lit tous les messages qui ont été envoyés dans son inbox Tumblr. Donc c'était en 2012 et elle ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Elle avait le inbox full et donc elle a lu tous les messages sans s'arrêter. Donc on la voit manger, aller aux toilettes, nourrir ses chats, s'habiller, se déshabiller, enfin toute une journée. Donc on la suit, il n'y a pas du tout des rythmes normaux d'un récit, début, milieu et enfin. Alors, pardon, je me dépêche. Alors, le dernier volet, c'est le corps manipulé. Je pourrais parler de tous les artistes finalement dans cette partie, mais je voulais me concentrer sur le IA, l'intelligence artificielle, puisque c'est quand même tout récent et très actuel. Donc, j'ai choisi 2 artistes parmi mon corpus qui utilisent les outils des intelligences artificielles. Il y a l'artiste américaine qui s'appelle Holly Herndon, qui est en soi aussi musicienne. Mais elle utilise ses plateformes de réseaux sociaux comme une espèce d'expérimentation avec l'IA, notamment à travers des autoportraits générés avec des programmes comme DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, mais aussi maintenant OpenAI, ça te permet de faire ça. Et depuis 2019, elle y partage des images qui s'éloignent des représentations conventionnelles circulant sur les réseaux sociaux, explorant des formes troublantes et instables. Et notamment dans une interview, elle explique qu'une partie de cette volonté, c'était qu'en tant que personnage public, elle retrouvait souvent son headshot à côté de son image en ligne, était toujours très... Enfin, elle ne se sentait pas représentée réellement, c'était très commercial. Donc, elle voulait créer des d'autres portraits d'elle-même. Donc, ces images-là font partie d'une série qui s'appelle Classified, où il y a 80 autoportraits générés avec OpenAI Clip. Donc, ça, c'est le logiciel. Et comme vous voyez, les images oscillent entre réalisme pictural et déformation radicale. Donc, avec des aberrations, enfin, des hallucinations. Parfois, elle a plusieurs yeux, elle a des tresses qui ressortent d'une autre tresse. C'est des parties floues où on ne comprend pas ce qui se passe. Ou littéralement, son corps est fragmenté. Donc, contrairement au filtre de réalité augmentée que je vous ai montré tout à l'heure, ça n'ajoute pas juste une couche sur le visage. C'est ici la matière même de l'image est déconstruite et recomposée à partir de bases de données alimentées par des millions d'autres visages, en fait. L'intelligence artificielle, ça puise dans les bancs de millions d'images et pas seulement d'elle-même. Donc finalement, elle est décomposée et reconstruite, mais pas seulement d'elle-même. En fait, il y a des images de beaucoup d'autres personnes dedans. Et donc, au lieu d'un visage qui est authentifiable, Herndon propose un visage multiple, issu d'un processus machinique qui brouille les frontières entre singularité et multitude. Okay. Donc, pour la dernière œuvre, c'est aussi à nouveau Arvida Bistrom qui a fait une œuvre qui s'appelle In the Clouds, où pendant plusieurs mois, elle a vendu des images nues d'elle-même sur une plateforme un peu comme OnlyFans, accompagnée d'un chatbot aussi. Et les images et le chatbot étaient composés et générés par l'IA, sauf qu'elle n'a pas dit aux gens. Elle a dit après. Mais les images, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus bizarres et radicalement déformées. Donc, comme vous pouvez voir au début, il y a les images où son corps est modifié selon des standards hyperféminisés, on va dire conditionnés par un courant de l'industrie pornographique, ce qui constitue énormément d'images en ligne, en fait, des corps féminins. Et petit à petit, les images deviennent de plus en plus déformées, qui exposent donc ces hallucinations, ces aberrations techniques, donc les corps fragmentés, des membres surnuméraires. Petit à petit, il y a certains gens qui s'en rendent compte, il y avait d'autres gens qui ne s'en sont pas rendus compte jusqu'au très très tard. ça faisait partie de l'expérience. Donc, elle a joué avec cette familiarité sensuelle, mais aussi avec cette étrangeté. Et en le faisant, elle conteste et elle teste vraiment les codes de la sensualité. Et elle les détourne vers une forme de surréalisme corporel qui est parfois dérangeant. Ces gestes manipulent souvent aussi les attentes en fait d'images érotiques et sensuelles. Au lieu d'une promesse d'authenticité et proximité et intimité, ce qui est souvent proposé par les images intimes, on va dire, elle propose une version déformée et instable d'elle-même, qui révèle à la fois la plasticité du corps et les logiques de consommation qui le traversent. Donc, à travers toutes ces pratiques que je viens de vous présenter, donc du filtre, le flou, le scroll, la fenêtre et jusqu'au décor manipulé par l'IA, on peut voir comment les réseaux sociaux deviennent parfois des scènes contemporaines, en fait, où s'inventent des nouvelles formes de performance de soi, toujours prises entre contrôle et liberté, donc entre ces affordances, ces capacités des plateformes et ses limites, donc l'illusion et la transformation, et ouvrent potentiellement des nouveaux voies pour la mise en scène de soi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Moi, ça me fait penser à un spectacle, mais du coup, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce que tu as expliqué. Mais je sais qu'il y a un spectacle qui s'appelle Jeanne d'Arc.
Oui. Oui.
Qui se joue, du coup, sur scène, devant des gens, mais aussi sur Instagram en live. Et je ne sais pas, je savais faire intéressant, parce que tu faisais de la performance sur les vidéos.
Totalement. Cette œuvre est incroyable, donc ça s'appelle effectivement Jeanne d'Arc, mais d'Arc, D-A-R-K, comme dans le noir. Et j'aime beaucoup cette œuvre. Je ne l'ai pas mis dans cette présentation parce que je restais vraiment sur les plateformes, mais effectivement, ça aurait pu. Oui.
Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elle a sorti d'abord sur les plateformes.
Oui, et c'était pendant le Covid, donc oui. C'était parfait. Enfin, c'était vraiment une innovation au temps parfait et j'ai adoré. Ouais. J'ai pas pu le voir en réel, mais je l'ai vu sur les réseaux du coup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui.
Ouais, merci pour votre exposé. Dans le cadre, on réfléchit un petit peu aussi sur les implications pour la création. Donc là, vous avez montré déjà les implications. Et pour le spectacle vivant, est-ce que vous pensez que, parce qu'on a des performances en live qui se font encore derrière les caméras, etc. Est-ce que finalement, vous pensez qu'il y aura une régénéralisation de ces techniques, finalement, à l'intérieur de la scène elle-même hein, on sait déjà l'utilisation des écrans, enfin, voilà, d'interface numérique à l'intérieur d'un théâtre immersif, etc. Mmh. Est-ce que ces techniques sont exportables ou est-ce qu'elles sont liées simplement au support et au réseau?
C'est une super question et je pense que c'est une question que beaucoup d'institutions de l'art se posent actuellement sur le niveau de la création mais sur la médiation aussi. Je pense qu'ils essaient d'intégrer. Je sais que, par exemple, il y a de plus en plus d'aspects de réalité virtuelle, souvent pour animer certaines expos, et aussi parfois l'intégration des aspects interactifs dans les expos aussi. Et peut-être ça va continuer. Je pense que les gens aiment beaucoup aussi juste être dans voir un spectacle sur une scène avec des vraies personnes devant eux et qu'on a énormément de temps derrière un écran et je pense que enfin peut-être c'est un peu naïf mais j'y crois enfin j'apprécie énormément ce type d'œuvre mais presque tous ces artistes font des performances aussi sans les écrans et je pense que enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'apprécie autant et séparément. Après, c'est sûr que pour l'accessibilité, je sais que ça ouvre énormément de voies pour les gens qui n'ont pas accès à certains lieux artistiques, notamment les institutions, ou n'osent pas y aller. Que les réseaux sociaux, c'est comme une petite fenêtre et ça permet un certain accès où on n'est pas, par exemple, prise dans une certaine angoisse ou peut-être une culture d'aller voir la performance en réel qui peut être parfois intimidant si on ne vient pas de cette culture, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui.
Moi, il y a quelque chose qui me frappe et que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce soit pour Cindy Sherman, mais pour ne plus citer Orlan qui faisait le même genre de principe de se faire des implants, mm-hmm. J'ai plus son nom, mais le Mathieu Barnard.
Matthew Bynum, oui. Ouais.
Voilà le mari de Björk, là.
Oui,
j'ai l'impression que par rapport à ce que tu as pu nous montrer là, des modifications faites par des apps, par des logiciels, etc. Au final, quand on regarde ça, ça pourrait être Orlan qui l'a fait réellement, physiquement. Mmh. On a des images qui sont hyper similaires, mais qui racontent pas du tout la même chose. Mmh. Alors que, tu vois, si tu colles les deux côte à côte, une qui est issue d'Internet, une qui est faite en vrai, le rendu final est hyper similaire, mais le propos est complètement différent. Mm-hmm. Là, l'idée, c'est de travailler sur, sur qu'est-ce qui se passe en ligne, alors que Orlan n'était pas du tout sur cette méthode-là. Quoi. Et je trouve ça fascinant de voir des rendus vraiment jumeaux,
oui.
Mais qui sont le fruit de démarches complètement différentes.
Oui, et je pense que d'un certain aspect, Orlan et Cindy Sherman répond à un similaire enjeu de la conditionnement esthétique. Et donc, je ne me suis pas rentrée beaucoup dedans, mais il y a un phénomène qui s'appelle Instagram Face, que les filtres de réalité augmentée, d'une manière générale, accentuent certaines caractéristiques, donc les yeux plus grands, une bouche plus pulpeuse, enfin, certains aspects qu'on voit aujourd'hui tellement beaucoup, comme Orlan, elle a pu jouer un peu avec la Sainte Orlan, à dire, bah, je reconnais ces paramètres de beauté, enfin les idéaux de beauté d'une certaine époque, et je décide de faire différemment. Et je pense que c'est ce que, dans ce cas, en tout cas, je ne peux pas parler pour toute l'œuvre de Cindy Sherman, mais il y a totalement un parallèle entre répondre à certaines conditions visuelles, mais avec d'autres outils. Et s'adapter à ces outils, dans ces cas. Et après, oui, les images peuvent se ressembler. Je pense que quand même, quand on le voit sur le téléphone et on est proposé de le faire à nous-mêmes, ça ne semble pas pareil. Parce que quand même, Orlan, c'est des interventions qui prennent beaucoup de temps, l'argent et qui font mal. Donc là, en fait, on est sur toute complètement une différente démarche. Même si l'image à la fin est similaire, le processus n'est absolument pas, puisque c'est pas la même démarche, quoi. C'est pas la même implication non plus. Oui.
Intéressant là, comparément avant les Cindy Sherman, c'est que dans le document, le fait d'aller faire l'opération, Cindy Sherman documente en fait le résultat d'une opération.
Oui.
Et connaissant un peu la manière dont Cindy Sherman investit tout ce qui est autres arts pour se réapproprier, il y a une forme quand même assez étonnante de trajectoire de ce qui est son autoportrait ou ses doubles qu'elle met en scène systématiquement. Et c'est pas, enfin, c'est assez marrant de voir un tel style et de voir 20 ans après sa série sur les clowns, qui répond également à une autre série que Ronnie Orr a fait sur les clowns, et qui, et les feeds Instagram sont également une réponse à ce dernier travaux qu'elle a pu faire en langue, notamment sur les images manipulées par ordinateur. Et je trouve ça extrêmement intéressant, cette espèce de boucle de l'histoire de l'art qui est aussi que les figures iconiques, notamment féminines, de
l'histoire de l'art.
C'est peut-être une manière de faire quelque chose, de recréer un propre cycle.
Totalement, il y a un lignage et un héritage de ces archétypes qui se rejouent complètement.
Ouais. De même que quand tu parles de Facetune pour modifier les visages,
oui.
et où au final elle l'a utilisé en le poussant à l'extrême, mais à l'extrême inverse, c'est un petit peu la même chose qui se passe en musique avec l'autotune, ce qui était quelque chose qui était là.
Totalement.
C'est la note, et puis il y a des personnes qui ont décidé de le tirer à l'envers pour faire le contraire.
Totalement, oui, oui. Et c'est la beauté des artistes. Heureusement. Sinon, je n'aurais pas de contenu étudié. Parce que si c'était juste pour regarder tous les filtres, moins intéressant. Oui.
C'est pas vraiment une question, mais parce que ça, c'est super intéressant quand il y a des gens qui tombent des yeux, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir de l'art contemporain, ou qui n'ont même pas envie de voir ça. Et ça fait un truc un peu comme de performance, de faire en espace public.
Oui, totalement.
ça qui me contrastait dans tout ça.
Totalement. En fait, dans une conversation avec Arvida, donc, je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait de faire cette performance, notamment sur les réseaux sociaux, sur sa compte, parce qu'elle elle est artiste, mais elle était aussi à un moment mannequin, elle est aussi photographe, donc il y a énormément de gens différents qui la suivent, et elle a dit ce que je disais un peu tout à l'heure, ce que moi je voyais comme une intervention critique, à dire... tu me suis parce que tu penses que je suis X, Y, mais en fait, là, je vais faire une performance totalement bizarre. Mais pour elle, c'était plutôt pour inviter d'autres gens, à dire les gens qui peut-être ne vont pas aller voir une performance et tombent dessus et puis disent, bon, en fait, c'est intéressant. Donc, ça a un double... ça ouvre plein de possibilités.
Je te dis un truc par rapport à l'usurpation, la tromperie,
totalement.
Une forme de liberté de ton que venant du spectacle vivant, je trouve qu'il se réempare d'une liberté qu'on a plus presque l'impression des fois, je pense justement aux arts de la rue, où les choses sont très institutionnalisées, très cadrées, et en plus en ce moment on a une crise idéologique sur les projets culturels fortes, quoi, on est attaqué partout. Et là, malgré les majors, tu disais que tu n'as pas abordé le thème, malgré le fait que c'est dans...
Oui.
Dans les GAFAM, quoi, ben, en fait, il y a une forme de liberté et de large spectre, ouais, pour toucher tout le monde. Enfin,
oui, oui, totalement. Et par exemple, elle ne peut pas être nue, donc elle a dû mettre les habits. Donc il y a des limites. Et aujourd'hui, il y a des conditions, des communautés qui imposent des conditions, mais elle trouve des façons d'aller. Un peu de temps en temps, mais en vrai, ça devient de plus en plus compliqué. Et on en parlait hier soir un peu avec Nicolas sur les algorithmes. Je ne vais même pas rentrer dedans, mais évidemment, ça joue aussi. C'est peut-être une cinquième personnage, enfin, volet ici, c'est l'algorithme qui a une énorme influence sur qui est exposé à quoi. Et elle a eu sa compte était annulée, enfin. Plein de fois, elle a dû le remettre en ligne et c'est un combat. Ouais. Merci beaucoup, merci pour vos questions.